Bonjour et merci d'écouter ou de regarder Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Questions politiques avec la Dream Team, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Salut Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Émission spéciale aujourd'hui. Notre invité est l'un des meilleurs spécialistes des questions géopolitiques, ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre des Affaires étrangères. Il s'est défini lui-même comme un hyper réaliste, président de l'Institut François Mitterrand. Il a fondé un cabinet de conseil en géostratégie. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, tous lui ont demandé son expertise et il fait partie du groupe de personnalités chargées d'imaginer l'avenir de l'OTAN. Alors la crise du coronavirus a-t-elle complètement rebattu les cartes du monde ou est-elle un révélateur de tendances de fond des grands enjeux de notre monde contemporain ? La réflexion est au cœur du livre qu'il publie chez Fayard, le titre « Et après ?» Hubert Védrine est en direct avec nous jusqu'à 13h pour intervenir le hashtag « Question Paul » ou l'application mobile France Inter.
France Inter, Ali Badou, Question politique.
Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Et bienvenue, jour d'élection, vous connaissez les règles mieux que personne. Qu'avons-nous le droit de ne pas dire ?
Drôle de question.
C'est mal formulé, mais disons que nous sommes tenus à un devoir de réserve.
On a compris quand même.
Nous ne devons pas influer sur la sincérité du scrutin. Ça devrait
donc on
aller.
Parle pas politique.
On ne parle pas politique intérieure. En tout cas, on a interdiction de parler des sondages des différentes villes, des candidats.
Moi, ça
et
me va très bien, mais je ne sais pas si ça
pour
vous
convient.
Ça ira.
On va se rattraper ce soir.
Le monde est vaste et il est intéressant, effectivement, puisque ce soir, soir électoral sur France 2 avec Nathalie Saint-Cricq et sur France Inter, avec Karine Bécard dès 19h. On va évidemment parler de ce livre et après. C'est une question que posent les enfants d'ailleurs.
Et après, point d'interrogation. Pas.
Il y a un point d'interrogation, mais c'est amusant parce que, et après, point d'interrogation, c'est une question que posent les gamins. Et vous êtes tous, sauf quelqu'un qui donne l'apparence d'être un enfant, d'avoir la naïveté des gamins quand ils demandent qu'on continue l'histoire.
Oui, mais c'est la question de tout le monde. Hein.
C'est vrai. On a tous été des enfants.
Non, mais maintenant.
Même vous.
En ce moment, bien sûr, vous aussi, Ali.
C'est vrai, il est pareil. Mais on va y venir, on va démarrer avec l'actualité internationale et on avait envie d'avoir votre regard sur un certain nombre de questions clés. On va commencer avec les États-Unis, Françoise.
Et on voit bien que la crise du Covid n'est pas du tout terminée et on voit bien aussi qu'aux États-Unis, on est en plein ressaut. Au fond, le déconfinement a été peut-être fait trop vite. Est-ce que vous pensez que Donald Trump vit en ce moment quelque chose de crucial pour son avenir politique et son éventuelle réélection ?
Hubert Védrine.
Je pense que là, l'élection reste ouverte, en réalité. Vous voyez, ce corps électoral américain, faut pas projeter nos visions, nos réactions, le fait qu'on soit en permanence effaré, voire écœuré par Trump, ça n'a rien à voir avec les mécanismes électoraux américains. Donc ça reste ouvert. L'élection est en novembre, et sans doute les gens vont voter à partir de leur situation économique personnelle en octobre, en ce qui concerne l'élection américaine. Voilà.
Parce oui, que c'est
pas justement... D'autre part, vous parlez de crise, je vais le dire tout de suite, c'est pas une crise ce que nous vivons. Ça se reproduira, c'est pas une crise dont on va sortir. C'est
oui,
un
mais
phénomène
il y a
de longue
Paris,
durée. Non, mais le terme de crise appliqué à la pandémie, il y en a eu pas mal depuis 20 ou 30 ans, il faut trouver les causes, il y en aura d'autres, en fait.
Mais on va y venir.
Mais juste pour rester sur le sujet,
le terme de crise est trop optimiste.
On a vu plusieurs groupes de pays réagir différemment face
oui,
à cette crise.
Bien, oui.
Et le pari de Donald Trump, ça a été quand même d'essayer de sauver l'économie avant tout.
Oui.
Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est tombé dans ce piège-là ou pas ?
C'est trop tôt pour dire parce que là, c'est pas fini, les déconfinements sont pas terminés, le virus est toujours là, ça peut revenir, il y en aura d'autres. C'est trop tôt. Moi, je suis tout à fait favorable à une évaluation, pas au règlement de compte interne en politique intérieure, les crépages de Chignon et compagnie, mais il faut une évaluation, il faudra une évaluation systématique de la politique de tous les gouvernements, ceux qui avaient bien prévu ou pas, ceux qui ont bien anticipé ou pas, le confinement, comment, quand, le déconfinement, comment, les vaccins, etc., s'il y en a, les traitements. Mais après, y compris les organisations, genre OMS, le moment n'est pas venu, il faudra le faire, en fait. Comment va se situer les États-Unis là-dedans? Nous, on a l'impression maintenant, parce qu'on est dans un déconfinement qui se passe plutôt pas trop mal, quoi, finalement, on a l'impression que c'est épouvantable aux États-Unis, c'est pire au Brésil. Mais c'est trop tôt pour dire.
Mais la situation est malgré tout catastrophique aux États-Unis.
Il y a un retour de l'épidémie. N'oubliez pas que évidemment, c'était les gens ne peuvent pas entendre ça, mais n'oubliez pas que le taux de mortalité de cette épidémie est faible, finalement.
Oui, bien sûr. Alors justement, à quelle aune
mais si on le dit, on a l'air d'un monstre insensible. Vous voyez, mais par rapport à des tas d'autres épidémies, c'est pas très élevé. Alors,
justement, vous parlez des
épidémies. Mais c'était pas une raison pour pas confiner, vous voyez, bon.
Vous parlez des épidémies précédentes, vous parlez des différents pays, et vous dites qu'il faudra juger plus tard, par règlement de compte pour l'instant. À l'aune de quoi on jugera? Quand on voit Bolsonaro, quand on voit Boris Johnson, quand on voit Donald Trump, est-ce que ça sera le nombre de morts? Est-ce que ça sera le nombre de morts économiques, de chômeurs? Comment peut-on faire une évaluation des différentes politiques qui ont été menées au moment du confinement?
J'emploie pas le terme juger, hein.
Non, enfin, juger. Faudra évaluer.
Non, mais c'est très différent.
Mais on évalue.
Moi, j'ai pas l'esprit de jugement de tout autant.
On évalue comment, sachant qu'on nous a tous donné des nombres de morts sans dénominateur. C'est-à-dire qu'on a dit 40 000, 20 000, mais on ne sait pas par rapport à la population.
Non, mais au début du livre. Je rappelle tous ceux qui avaient prévu ça. La CIA, le livre blanc sur la sécurité, Bill Gates, etc. Mais j'essaie de comprendre, c'est le point de départ du petit essai, c'est-à-dire comprendre pourquoi c'était inaudible. Comme ça remet en cause fondamentalement ce qu'est devenu la mondialisation, sur le plan de la foi économique, mais même individuel, le mouvement perpétuel, le mouvement brodien, l'aspect festif, bon. C'était inaudible avant. Donc il faudra essayer de comprendre pourquoi les avertissements n'avaient pas été entendus.
Mais on va y venir, Hubert Védrine.
Je sais, c'est à la fin, mais c'est sa question à elle.
Oui, mais malgré tout, vous avez évité de répondre aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il se passe quelque chose d'assez curieux, c'est que le président est quasiment dans le déni de cette maladie.
Oui.
Des mois après qu'elle a démarré.
Il y a une dizaine de dirigeants dans le monde qui disent « mais c'est pas important,
mais c'est malgré tout la première puissance mondiale, et en l'occurrence, c'est Donald Trump, quelqu'un qui fait des choses qui nous semblent incompréhensibles, mais peut-être les comprenez-vous, c'est-à-dire que, par exemple, il ne s'occupe pas de l'économie et des problèmes du coronavirus. En revanche, il signe un décret exécutif pour ce qui est pour lui l'urgence du moment, à savoir les attaques contre les statues qui sont censées représenter, symboliser le passé esclavagiste, le passé raciste des États-Unis.
Il est élu par une Amérique qui doit abhorrer ce mouvement. Bon, voilà. La politique intérieure ne s'arrête pas parce qu'il y a le virus. Mais sur l'économie, c'est quand même le centre de son truc, parce que depuis l'origine, il est en guerre contre les pays qui ont des excédents commerciaux sur les États-Unis. On pourrait dire les États-Unis ont qu'à faire de meilleures bagnoles que les Allemands et ça se corrigerait, mais bon, ils raisonnent pas comme ça. D'où le bras de fer géant avec la Chine, qui n'est pas que commercial, qui est quand même stratégique. D'où le bras de fer avec l'Allemagne. Donc il y a un fil conducteur. Et même quand, je vous invite surtout quand on parle ici, depuis ici, même quand Trump nous dégoûte, quoi, pour des tas de raisons, il faut comprendre qu'il y a une sorte de logique chez lui. Un des membres de son style effrayant, il y a une sorte de logique de ramener les jobs aux États-Unis.
Voyez. Mais à vous écouter, on a le sentiment que ça ne ferait pas tant de différence que ça, qu'il rempile pour un deuxième mandat, que Joe Biden soit élu.
Non, mais je suis pas l'électeur américain. Hein.
Non, mais vous êtes un observateur.
Non, c'est très différent. Si Trump est réélu et si Biden est élu, c'est pas la même chose. Si Biden est élu, le style sera complètement différent. Il sera aimable, il sera agréable, poli. Il dira on va faire des réunions tous ensemble, etc. Mais le fond ne changera pas forcément. Notamment pas sur la Chine, vous voyez. Donc c'est pas le jour et la nuit.
Ça, ce sont des fondamentaux qui restent malgré tout.
C'est devenu fondamental, parce que pendant 40 ans, les fondamentaux, c'était l'alliance Deng Xiaoping, Kissinger. Et donc les États-Unis ont été au bout de ce processus, et depuis quelques années, depuis avant Trump, depuis Xi Jinping, depuis que la Chine dit « on va devenir le numéro un, nous
».
Et on va pas simplement devenir le numéro un, mais notre système est meilleur que le vôtre. Bon, alors là, il y a un bras de fer fondamental avec l'Occident.
Alors justement, sur ce bras de fer fondamental, est-ce que vous pensez que la crise du Covid a fait évoluer les choses en faveur de l'un ou l'autre pays?
Non.
Pourquoi?
Non, parce que aucun pays va s'en sortir très bien. D'abord, l'économie s'est effondrée partout, y compris en Chine. Et quand la croissance chinoise est à zéro, et je ne sais pas combien, c'est quand même dangereux pour le maintien du système, du contrôle du Parti communiste sur le système, parce que le deal, c'est vous faites pas de politique, mais enfin, on améliore les conditions de vie en Chine, ce qui a été phénoménal depuis 30 ans. Hein. Donc, ils sont pas dans une posture formidable, et tout le monde va leur tomber dessus à propos de l'origine du virus. Qu'est-ce qui est vrai? Comment ça s'est développé? Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps? Parce que vous avez dissimulé, un peu menti, bon, l'affaire de l'OMS. Donc, ils sortent pas flambants, même s'ils ont montré dans la deuxième phase que, compte tenu de ce qu'ils sont, ils peuvent confiner plus efficacement, plus de gens, tout de suite. Bon, les États-Unis, on voit le côté complètement erratique, aberrant, mais encore une fois, c'est trop tôt pour conclure. N'extrapolez pas trop. À mon avis, le système international chaotique est le même après qu'avant, sauf que ça se voit mieux.
Donc, c'est un révélateur.
Exactement. Révélateur, c'est un crash test.
Donc il n'y a pas de... Et après, particulier...
Donc je pense qu'il n'y a plus personne qui croit encore qu'on est dans une communauté internationale.
Mais du coup, est-ce que ça a abîmé les populistes et le populisme? Quel regard est-ce que vous portez sur ça? On a le sentiment quand même qu'il y a eu d'énormes erreurs de gestion de crise de la part de ceux dont on a déjà parlé, là, Trump, Bolsonaro, Boris Johnson. Est-ce que finalement, quand même, ils n'ont pas prouvé leur incapacité à gouverner?
Mais on n'en sait rien, il n'y a pas eu d'élection depuis. On ne sait pas ce que ça va donner. Et puis après, ça dépend comment on définit le populisme. Donc moi, j'ai jamais toujours rejeté les comparaisons grandiloquentes avec les années 30. Ça n'a rien à voir. Mm-hmm. Rien. Et je pense que c'est un décrochage en Occident des classes populaires, puis des classes moyennes, par rapport à la mondialisation telle qu'on leur avait racontée, la mondialisation heureuse, etc. Et ils disent, mais non, c'est pas bon pour moi, en fait. Et même par rapport à l'idée européenne. Donc ça n'a rien à voir avec la façon de gérer une épidémie. Donc à mon avis, les éléments de ce qu'on appelle le populisme, qui a des tas de rameaux tout à fait différents, ils sont toujours là. Et on arrivera à le surmonter que si on arrête d'injurier ces gens en leur disant, mais vous avez tort de réagir comme ça, parce que ce que nous faisons, finalement, est dans l'intérêt général. Mais il faut reconvaincre.
Même si eux nous insultent. Même si Trump, par exemple, déclare que l'Union européenne est un ennemi.
Non, mais je parlais dans un pays. Les dirigeants face à ce qu'on appelle le populisme, qui est à mon avis un mauvais concept, parce que ça, c'est un concept paresseux. Ça dispense d'analyser les vrais ressorts du truc. Vous voyez. Alors, entre les pays, c'est différent. Quant à Trump, s'il insulte, quoi, les Européens, par exemple?
Par exemple?
Alors, vous remarquerez, Ali, que depuis qu'il est là, il a beaucoup insulté les Européens. Ils disent, j'en ai rien à fiche, quoi, au fond. Et il se passe presque rien du côté européen. Presque rien.
Ouais, complètement.
Presque rien. On a vu qu'Ursula von der Leyen a placé sa commission sous le signe de la géopolitique pour exister entre les Américains et les Chinois, pour retrouver une place
un peu plus qu'exister
dans l'ordre mondial.
Éviter d'être écartelé. Non, mais ce que dit Madame von der Leyen est très bien. Ce que dit Timmermans, le numéro 2, est très bien. Ce que dit le responsable de la politique étrangère est très bien. Madame Lagarde, c'est très bien. Il y a un début de commencement de changement de ton de la part des dirigeants des institutions européennes. C'est très bien. Mais Trump est là depuis un certain temps. La première fois que Madame Merkel l'avait vue, la première année, elle était épouvantée, naturellement. Elle avait dit, on peut plus compter sur eux. Donc, il faut s'organiser mieux entre nous. Ça aurait dû être le déclenchement de quelque chose, voyez.
On a mis 3 ans.
Mais il se passe rien, un petit peu, là, grâce à la France, notamment, il y a quelques progrès, quelques projets. Mais enfin, les Européens, en majorité, ils vont faire comme si la question ne se posait pas. Vous savez, c'est le fameux éléphant dans la pièce. Donc ils vont dire, Trump, c'est un cauchemar, ça va pas durer, on va retrouver l'Amérique qu'on aime en technicolore après, mais non, on va pas retrouver l'Amérique de la nostalgie. Donc on retombe toujours sur, au bout du compte, qu'est-ce que les Européens veulent vraiment.
Et justement, on a vu quand même à la faveur de cette crise, que, notamment sur la mutualisation des dettes, des progrès qu'on n'avait jamais pu constater avant. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur la capacité de l'Europe à se vivre comme... un peu plus unie et un peu plus souveraine, ou vous dites elle aura toujours un train de retard par rapport à la marche de l'histoire?
Iba Védrine.
Non, je ne dis pas un train de retard, parce que ce qu'ont fait les Européens depuis quelques dizaines d'années est très remarquable. Hein. Mais dans l'affaire en question, ce qui a fait bouger Mme Merkel, elle le dit très bien dans l'interview donnée au Monde et à d'autres journaux, elle dit c'est l'intérêt de l'Allemagne. C'est pas du tout, parce que contrairement à ce qu'ont raconté un certain nombre de commentateurs européistes en France, ils disent c'est merveilleux.
Amour,
ils s'intéressent pas du tout à l'application du plan, mais ce qui leur plaît énormément, c'est que ça progresse dans l'intégration. Quel que soit l'usage, en fait. Mais ça, c'est une démarche idéologique. Mais Mme Merkel dit la vérité.
Et d'ailleurs, elle dit, pour la citer précisément, il est dans l'intérêt de l'Allemagne que l'Union européenne ne s'effondre pas.
Ben voilà. C'est ça le fond. Et pour l'Allemagne, c'est impossible de laisser s'effondrer l'économie de l'Italie du Nord, par exemple. C'est pour ça qu'elle a bougé. En fait. Et d'ailleurs, la réalité européenne, pas le système, c'est pas de leur fait, c'est plus global, fonctionne plutôt dans l'intérêt de l'Allemagne. L'essentiel de l'excédent allemand, qui met Trump tellement en colère, l'essentiel de l'excédent, c'est sur l'Europe, sur les autres Européens, dans la zone euro. Pensez à nous de travailler plus, d'être plus compétitifs, etc., etc.
Oui.
En tout cas, la réalité, c'est que Mme Merkel n'a pas bougé pour d'autres raisons que l'intérêt de l'Allemagne. Donc il faut pas surinterpréter ce qui s'est passé. Il n'empêche que je trouve le plan intéressant. Très bien.
Le plan de 750 milliards d'euros.
Alors, plusieurs plans. La réaction initiale de Lagarde, très bien. La réaction de von der Leyen, très bien. Ensuite, le plan Macron-Merkel, très bien. Il y aura un compromis à l'arrivée. Il n'y aura pas que des dons, hein. Il n'y aura pas que des prêts non remboursables. Il y aura un mélange de prêts, subventions, etc. Mais c'est plutôt bien. Mais Madame Merkel insiste en disant c'est une occasion spéciale et c'est pour une année. C'est pas la métamorphose de l'Europe à travers ça, en fait. Mais c'est très bien.
C'est très bien, mais ça n'est pas acquis. Parmi les 27, il y en a 4, par exemple, qu'on les appelle frugaux ou radins, qui refusent le plan de Ursula von der Leyen.
Il y aura un compromis, dit-il.
Jean-Jean-Pensin dit qu'il y aura un compromis.
Il y aura un compromis.
Oui, bien sûr. Il y aura un compromis. Mais après, il faut se demander, mais quel usage on va faire de ça? Des 30 ou 40 milliards qui arriveront chez nous. On va en faire quoi? Donc c'est toute la question. Est-ce qu'on revient à la situation d'avant ou à la normale, à l'apostrophe? Ou à quelque chose de
c'est modifié. Justement. Alors justement, bon. Qu'est-ce qu'on en fait?
Mais en tout cas, je réponds plutôt d'accord. Positivement, disons, par rapport à ça, en ajoutant que tout ce qui peut venir de l'Europe en plus par rapport à avant est très bien, mais ça ne nous dispense de rien à notre niveau.
Quand vous dites nous, Français?
Nous, Français, mais je dirais la même chose si j'étais en Italie ou au Danemark, vous voyez. Ça ne dispense aucun État membre d'un effort qui doit être le sien. Ça vient en plus.
Alors justement, qu'est-ce qu'on en fait? Vous dites, ça dépend ce qu'on en fait, et ça nous dispense d'aucun effort. Quelles sont les grandes lignes, justement, qui doivent inspirer la politique qu'on doit mener pour mériter cet argent et comment le flécher?
On l'aura de toute façon, oui. On n'a pas à le mériter, on l'aura, mais le flécher, oui, c'est une bonne idée. Mais on a les mêmes problèmes qu'avant. On est un pays extrêmement endetté, par exemple.
Hein? Oui, mais la dette, vous avez vu, on s'endette par milliards, elle coûte pratiquement plus rien, on ne sait même pas si elle sera un jour remboursée. Est-ce que ça ne change pas complètement le paradigme, ça?
Non, on ne peut pas faire comme si la question ne se posait plus et qu'on allait raser gratis jusqu'à la fin des temps. Hein. Non, on ne peut pas éliminer cette question. D'autre part, on est le pays dans les pays développés qui a la pression fiscale la plus élevée pour financer l'État-providence, en gros. Ça marchait bien quand on avait une énorme croissance. Quand on n'a pas la même chose depuis 20 ou 30 ans, c'est plus compliqué. La pression fiscale est la plus élevée, jusqu'à un point qui est rédhibitoire sur le plan économique. Mais grâce à ça, soyons positifs, ça permet les transferts sociaux les plus importants de toute l'OCDE. Et à l'arrivée, on est le pays le moins inégalitaire de l'OCDE. Mais personne ne croit ça. Hein. Personne ne le croit, on le dit jamais, c'est l'inverse.
Avant redistribution, bon. On ne l'est pas. Après redistribution, on l'est.
Avant redistribution, on n'est pas plus inégalitaire que la plupart des autres. Hein. Et parce que c'est le mouvement de la dynamique et aucune société ne s'est développée par l'égalitarisme. Hein. C'est jamais arrivé nulle part, en fait. Donc il y a une dynamique. Il faut corriger, il faut rattraper. Donc il y a des tas de problèmes qui se posaient avant. Le fonctionnement de l'État, de l'administration. Tout le monde râle, puis en même temps, tout le monde veut garder les services publics, et les gens du monde hospitalier ont été magnifiques. Il y a quand même quelque chose, ça fait partie du paquet évaluation, ça. Pas pour juger, punir je ne sais pas qui. C'est une approche stérile, ça, pour tirer des leçons. Est-ce que la prochaine fois, on sera mieux organisé? Donc je pense qu'il faut aller regarder ce qu'ont fait les Coréens du Sud, les Allemands, enfin certains lenders, l'Autriche, etc. Donc il y a pas mal de choses à voir. Là, aller plus loin dans la régionalisation à condition de ne pas faire double emploi avec les services de l'État, à condition que les régions se comportent de façon responsable. Alors que les entités décentralisées, en général, font les deux. Ils veulent être autonomes, et puis dès qu'il y a un problème, ils vont pleurnicher, c'est de la faute de l'État. Il y a plein de choses à faire qui étaient là avant. Je parle pas de l'éducation, j'ai pas énuméré tout, l'éducation et compagnie.
Non, mais sauf que régionaliser, vous êtes un peu surprenant dans votre essai, parce que vous allez très très loin, on en est très loin, nous, la France, de la régionalisation, on n'est pas l'Allemagne, on n'est pas l'Espagne. Oui. Effectivement, comme vous le dites très bien, les Français passent leur temps à dire, mais que fait l'État pour moi? Donc la transformation culturelle, politico-culturelle du pays, on le fait comment et ça prend combien de temps?
Ben, c'est ça, mais dites ça à des présidents de région quand vous les aurez, là.
Non, mais eux le souhaitent, d'accord. Mais
Non, ils ont un double langage aussi.
Oui, complètement.
Et c'est là-dessus que je voudrais revenir, parce que vous dites, au fond, vous dites, tout le monde se tourne vers l'État, et en même temps, on voit une sorte de bureaucratie. Vous dites, il y a 400 000 normes. Enfin, c'est complètement hallucinant, une demande de protection folle. Et vous avez été aussi parmi ceux qui ont essayé de faire des réformes de l'État, de décentraliser. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel frein de la France à faire un État qui fonctionne mieux que ce qui est aujourd'hui? C'est quoi le vrai problème?
Je ne sais pas, parce que la question de la décentralisation en est une. On peut dire que l'État répugne à lâcher trop, et puis qu'après, les bénéficiaires régionaux, départementaux, locaux jouent les deux langages, en effet. On peut dire ça. Mais normalement, malgré ce combat historique, tout le monde devrait être d'accord pour que l'ensemble marche mieux.
Oui.
Mais après, on tombe sur des sujets délicats. C'est là le temps de travail, l'assiduité au travail, l'organisation, un tas de trucs. Oui, donc après, on va tomber sur des questions politiques sensibles, des questions syndicales sensibles. On va tomber sur les débats absolument sans fin sur le temps de travail comparé. Bon, c'est très compliqué. Donc, j'ai pas de réponse magique. Donc, je me concentre dans le petit essai dont on parlera après sur deux, trois points.
C'est que vous faites presque une comparaison avec juste avant 1789. Vous dites, j'aime pas les comparaisons historiques grandiloquentes, mais le tableau général fait quand même penser à la France des années 1780. Et en fait, c'est ça qui frappe.
Oui, je dis pas d'ailleurs 89.
Enfin, on a compris qu'on était en pré-révolution.
En fait, on le vit sous tous les gouvernements, c'est-à-dire il y a des grandes ambitions de réforme. Et
je pense à des grands réformateurs de l'époque, voyez, genre Turgot, des choses comme ça. C'est à ça que je pense. Bon, mais l'histoire n'a pas les mêmes enchaînements historiques aujourd'hui. J'ai pas de solution miracle, mais j'ai voulu apporter ma contribution en ouvrant quelques pistes. Mais Ali m'a dit qu'on ne parle de ça qu'à la fin.
Et on a le droit d'autant plus de parler de la politique intérieure de la France au XVIIIe siècle. Là, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez y aller, Hubert Védrine. Nathalie,
la dernière chose, vous parlez de... c'est dans le livre quand même, excusez-moi, mais c'était la question qui me venait à l'idée des normes. Est-ce qu'on n'a pas été finalement, les dirigeants n'ont pas été d'une espèce de manque de courage insensé avec le principe de précaution à toujours vouloir protéger tout le monde, tout le temps, surtout? Et finalement, ce qui aboutit à une espèce d'embolie qui fait que maintenant, on ne peut pas prendre la moindre décision sans que ça prenne un an, deux ans, trois ans, que tout soit. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on a vu pendant la crise aussi ?
Enfin, c'est un révélateur, là aussi. Ce n'est pas la crise qui l'a créé, mais...
Non, un révélateur, mais est-ce qu'il n'y a pas un mea culpa des politiques, vous compris, sur cette espèce d'absence d'audace et ce côté, on veut toujours... On ne parle pas vrai aux gens.
Les mea culpa ne servent à rien s'il n'y a pas de suite. Non, mais c'est collectif. La plupart des normes qui aujourd'hui paralysent l'action, l'initiative, le fonctionnement, qui ont abouti à des situations, genre Shadok, quand il a fallu commander les masques manquants, par exemple. Bon, c'est des normes demandées pour des bonnes raisons.
Bien sûr, à chaque
fois. Pendant des années, des décennies, c'est des normes pour des raisons de sécurité au travail, de droit des travailleurs, d'environnement, de sécurité, ceci, cela. Tout ça étant codifié de façon solennelle, absurde, dans la Constitution. Je suis complètement contre les propositions de constitutionnalisation dans l'affaire écologique. Ça ne réglerait aucun problème, ça sert absolument à rien. Donc c'est tout le monde qui a demandé ça. Et qui ont réclamé des normes, et qui ont crié au scandale quand il n'y avait pas des normes suffisantes. Et à un moment donné, on voit que c'est complètement asphyxiant. Il paraît que des organismes spécialisés disent qu'il y a 400 000 normes. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup aussi ailleurs, mais on a l'impression qu'il y en a un peu plus là. Bon, moi je pense qu'il faut en effet s'attaquer à ça. Mais c'est pas les politiques isolées des gens, vous voyez.
Non, mais avoir le courage de dire aux gens...
Alors la question du courage, je suis d'accord sur le manque de courage, mais moi je pense que le meilleur exemple de manque de courage... C'est d'avoir pas dit depuis 20 ou 30 ans qu'on ne peut pas se passer du nucléaire pour le moment. C'est ça où il y a un manque de courage.
Pourquoi
frappant.
Ça ? Quel rapport avec la crise que nous traversons ou que nous sommes encore en train de traverser ?
Ça n'a pas un rapport direct avec l'affaire du virus. Hein. C'est un rapport direct avec l'écologie. Mais le fait d'avoir raconté qu'on pouvait se passer du nucléaire sans relancer le charbon, donc le CO2, à un moment où la question climatique n'est qu'un morceau de l'écologie, la biodiversité, c'est presque plus important encore. Le fait de ne pas avoir osé dire ça, parce qu'il n'y a eu que des majorités qui n'avaient pas de majorité dans des villes ou dans des pays, des machins comme ça, sans l'appui, sans l'apport d'écologistes, disons, maximalistes par rapport à ça, voilà un exemple de lâcheté.
Oui, mais il y a quand même des catastrophes internationales, celle du Japon, qui fait qu'il y a
une
inquiétude sur le.
Oui, je
sur
sais bien, mais c'est le tsunami, le Japon. La centrale n'a jamais dysfonctionné. Elle n'aurait jamais dû être construite là où elle était. Mais c'est pas un accident comme Tchernobyl. C'est pas un accident nucléaire. Il y a aucun mort du nucléaire au Japon. Aucun. Aucun. Les gens sont morts de noyade. Voyez, par rapport à ça. Donc, je trouve qu'il a manqué d'explications. De gens disant, évidemment, ça pose des gros problèmes, les déchets nucléaires, etc. Mais il n'empêche que si la priorité est écologique, donc climatique, donc le CO2, il faut savoir ce qu'on veut. Comme Madame Merkel, pour ne pas rater je ne sais quelle élection régionale, il y a des années, a décidé de sortir du nucléaire sous prétexte de Fukushima, alors qu'il n'y a aucun risque de tsunami en Bavière. Bon, elle a fait une opération politicienne, tactique, et elle a relancé le charbon, en fait. Donc le CO2. Elle a réussi à se faire appeler chancelière du climat, ce qui est quand même complètement cocasse. Bon. Donc voilà un exemple typique de manque de courage. Je ne dis pas qu'il faut aimer le nucléaire, c'est pas le sujet. Mais tant qu'on n'aura pas inventé les batteries solaires, les batteries super perfectionnées qui garderont l'énergie solaire pendant un an, par exemple, ce qui changera tout, il faut être courageux.
Mais d'où vient votre conversion à l'écologie, pour le dire rapidement ? Ça date de quand, à peu près ?
Non, c'est pas une conversion.
Vous apparaissez comme un récent converti.
Chemin de Damas.
Vous êtes ambigu, en fait, dans votre essai. On a l'impression que vous ne les aimez pas trop, les écolos, quand vous dites...
Ne parlons pas de politique intérieure, Karine.
Oui.
Okay. Absolument interdit.
Mais quand vous dites qu'ils ont des propositions inapplicables...
Non, mais pourquoi est-ce qu'Hubert Védrine, tout à coup, a pris conscience que l'écologie était un sujet important?
D'abord, j'ai toujours adoré la nature.
Oui, mais ça, c'est pas l'écologie.
J'ai un être tout à fait urbain, mais j'ai même fait de l'alpinisme quand j'étais jeune. Donc, je connais les milieux naturels très, très beaux et sensibles. Deuxièmement, quand j'étais à Sciences Po, j'avais un petit job à côté dans une boîte à bac, et j'enseignais sur l'environnement. Ça m'a toujours beaucoup inspiré, beaucoup intéressé. Donc, ça fait plusieurs décennies que j'ai parlé avec tous les plus grands scientifiques français du monde entier. Donc, il n'y a aucune conversion. Simplement, à un moment donné, quand on ne m'interroge pas que sur les crises géopolitiques, qui reste ma passion aussi, hein, je dis ce que je pense. Et je pense que le moment est venu, mais j'anticipe sur la fin, de définir une ligne d'écologisation raisonnable. Voilà, le moment est venu. Alors, mais ce n'est pas parce que je me suis converti comme Saint Paul qui tombe de cheval, voyez.
Alors, comme on est face au réchauffement climatique, que tout le monde dit qu'il y a urgence, il y a quand même un énorme débat aujourd'hui sur la décroissance ou la faible croissance. Pourquoi est-ce que vous fustigez en disant non, la décroissance, ce n'est pas la solution?
Hubert Védrine.
Parce que l'immense majorité du monde veut croître et qu'on représente pas grand-chose par rapport aux 7 milliards d'habitants. Donc il faut pas être obnubilé par la situation française, qui est pas si grave que ça, en réalité. Les Chinois, ils veulent croître. Vous allez pas dire aux Chinois qu'ils ont eu tort de sortir d'une pauvreté immonde plusieurs centaines de millions de paysans chinois. Vous allez pas tenir ce discours en Indonésie ou en Afrique, c'est impossible. Donc il faut raisonner large.
Il faut raisonner large, mais ça a été aussi l'occasion, enfin cette crise que nous avons vécue, particulièrement le confinement, de s'apercevoir aussi d'excès de comportements consuméristes excessifs et de notre dépendance à la mondialisation.
Tant mieux si c'est suivi de suite. Et il y a énormément de pistes à suivre par rapport à ça. Mais je veux dire, le terme de décroissance est pas mauvais. C'est une raison pour laquelle ce terme n'a jamais convaincu, en réalité. Par contre, si on raisonne modification du contenu de la croissance, vous voyez. Si on dit, mais tel produit totalement polluant, on va arrêter, on va décroître tel produit, telle production. Aujourd'hui, on va plus fabriquer une usine qui ne va pas recycler à 90%, voyez.
Donc il faut une croissance à somme nulle, en fait. Il faut une croissance...
Non, parce que si on veut faire croître les batteries de l'avenir, il faut croître. Donc ça dépend comment on définit.
Ce sera compensé par d'autres choses.
C'est pas une question de compensation, c'est pas une question d'équilibre, c'est une question de dynamique vers quoi on va. Mais je sais pas si on peut aborder déjà le sujet, parce que c'est le sujet du livre.
Ah mais vous êtes libre.
On a le droit.
Allez-y, Hubert Védrine.
Je pense qu'il faut, si on trouve un mathématicien ou un statisticien ou économiste génial, qui redéfinisse le produit intérieur brut, qui aujourd'hui ne mesure que les flux marchands. Mais en caricaturant, aujourd'hui, vous rasez une énorme forêt. Vous ne construisez que des usines monstrueusement polluantes. Vous n'auriez pas le droit aujourd'hui, mais imaginons, hein, des usines polluantes dégoûtantes qui vont rejeter des trucs dans l'air, dans l'eau et créer des cancers pour 40 ans. C'est de la croissance. Parce que dans la mesure de la croissance, il n'y a pas ça, en fait. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre tous les éléments sociaux, le bien-être et compagnie, ça c'est ingérable, ça. Mais introduire, comme c'est l'idée de la taxe carbone d'ailleurs, mais en beaucoup plus, introduire le fait que dans certains cas, des investissements économiques indispensables à la vie, et à notre job, etc., porte atteinte au patrimoine écologique de l'humanité, la capacité des airs, des forêts, des océans, des machins. Si on arrive à donner une valeur à ça, comme dans l'affaire de la taxe carbone, la moindre décision économique, le moindre investisseur qui se fiche totalement de l'écologie, qui sera jamais converti à rien, en fait, mais il prendra une décision moins irrationnelle.
Mais dans une situation d'urgence comme celle que nous vivons, il faut venir en aide à des entreprises pour sauver l'emploi et l'écologie passe au second plan. Et du coup,
pas forcément, on peut synthétiser les deux.
Oui, alors... Cela dit, vous êtes quand même payé pour savoir que tout ce qui, de façon internationale, si ça serait merveilleux que ça marche, votre PIB écologiste, mais on n'est déjà pas capable de se mettre d'accord sur des choses très faibles. Pour ce qui est de la France, même sans faire de politique, vous considérez qu'il faudrait qu'il y ait une personne spécifique dans le gouvernement, que vous appelez vice-premier ministre, qui surveille l'écologisation de l'ensemble de la politique. Vous trouvez que c'est ce dont on a besoin ici et maintenant?
C'est une remarque de quelques mois. Je suis un praticien de la, disons, des choses gouvernementales. Et je pense que ça s'applique à tous les pays. Comme je pense que l'écologisation...
Mais je suis d'accord, mais comment faire? Comment imposer ça à tout le monde?
Il y a un téléphone portable allumé qui grésille.
C'est pas le mien.
Ce n'est pas le mien.
Je l'ai eu que pour savoir le taux de participation à midi.
On fait comme en classe pour se dénoncer.
15-29.
15-29%. Ça, on a le droit de le dire.
C'est 3 points en moins.
Parlez bien dans le micro, Nathalie.
C'est 3 points moins qu'il y a 3 mois pour le premier tour. On était à 18-38. Voilà, c'est fini.
Voilà, c'est tout ce que nous avions le droit de dire. Hubert Védrine, ce n'est donc pas votre téléphone portable, mais en l'occurrence, l'idée d'écologisation, vous étiez en train de nous l'expliquer.
Elle comment l'imposer au reste par du monde et si on
avoir... l'imposer. On ne va pas l'imposer. Déjà, on a du mal à imposer quelques mesures de bon sens chez nous. Bon. Mais on peut créer un mouvement qui entraîne, en fait, entraînant. Donc, je parle d'écologisation. Comme on parlait d'industrialisation, parce que c'est un processus.
Une transition.
C'est un mouvement. Non, pas une transition, parce qu'on ne sait pas très bien après, mais c'est un mouvement. C'est une action, c'est un processus. L'industrie, c'est un mot statique.
Et c'est un processus écologie. Lent, en fait, l'écologisation. C'est trop lent par rapport à la situation écologique dans laquelle on est aujourd'hui, non?
Oui, alors, qu'est-ce que vous proposez?
D'accélérer.
Non, mais comment?
Vous avez pas, avec des économistes et des géniaux.
Je rappelle quand même le sens dans lequel doivent se passer les questions-réponses sur ce plateau. Même si Hubert Védrine a inversé la relation,
c'est vous
qui
posez les questions et vous qui répondez, Hubert.
La formule, très bien. Mais de toute façon, le processus a commencé dans plein de milieux. En avril-mai, là où il y avait plein d'articles en disant « mais c'est horrible de s'en prendre à la mondialisation, c'est génial, démondialiser, c'est horrible, le repli sur soi, c'est horrible », au moment où on demandait aux gens de se replier sur eux, d'ailleurs, vous savez, pour se protéger, donc tout ça était incohérent. Bon, mais au même moment, il y avait énormément de grands chefs d'entreprise qui disaient « mais non, on a très bien compris, il faut intégrer ces données, on est engagé là-dedans, donc c'est très engagé ».
Il signe une tribune.
Mais il y en a tout le temps, il n'y a,
oui,
a pas que celle-là.
Mais c'est étonnant de voir le patron de Total, par exemple, le patron d'Aéroport de Paris et le patron de Renault dire que l'avenir doit être vert malgré tout.
Bien sûr, parce qu'il faut arrêter d'opposer les deux. Mais dans 10-15 ans...
Enfin, un aéroport, une compagnie aérienne ou l'une des plus grandes entreprises d'exploitation de pétrole et de gaz au monde...
Dans 10-15, justement, c'est très intéressant de voir ce qu'a dit Pouyanné à ce sujet. C'est assez commode pour lui de dire... Il y a la crise, l'urgence, c'est de redémarrer, donc on se fiche des trucs écolos. Il n'a pas dit ça du tout. Il n'est pas le seul, ils sont des dizaines à dire autrement. Vous voyez, de toute façon, dans 10-15 ans, la construction, l'agriculture, les transports, tout, l'industrie auront été écologisées. On n'opposera plus les deux termes. Il faut entrer dans une dynamique. Alors, ma remarque sur ma suggestion sur vice-premier ministre, je l'applique d'ailleurs à tous les gouvernements confrontés au sujet, c'est pas que la France, hein. On peut pas faire gérer l'écologie dans un domaine particulier.
Faut que ça soit trans.
Donc, je pense qu'il faut un niveau assez élevé. On peut prendre une autre formule. Quelqu'un qui doit stimuler, qui doit dire au ministre de l'Agriculture, des Transports, de l'Industrie, mais qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu peux obtenir? Alors, il va dire, mais les syndicats veulent rien, ou les syndicats agricoles, par exemple. Oui, d'accord, ils veulent rien du jour au lendemain. Mais dans 2 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, c'est une fonction qui n'est pas une fonction de gestion et pas isolée.
Vous êtes candidat à ce poste-là?
Pas du tout.
Vous êtes favorable à une stimulation plus qu'à des ordres.
Je suis candidat à rien du tout. À être invité dans des émissions comme ça et à continuer à participer au débat d'idées.
Vous n'êtes jamais
ça m'intéresse.
Punitif, comme vous ne voulez pas l'écologie punitive, comme vous voulez toujours être dans l'incitation. Oui. Est-ce que vous considérez qu'à terme, le caractère incitatif sera suffisant, que ce soit dans le domaine de votre vice-premier ministre
ça dépend
ou dans
des cas.
Domaines, ou est-ce que de temps en temps, il faut aller un petit peu plus...
Ça dépend des cas, ça dépendra beaucoup des inventions. Par exemple, est-ce que quelqu'un va inventer la climatisation qui n'émet pas de CO2? C'est vital, ça. Est-ce que quelqu'un, il vaudrait mieux que ce soit en Europe qu'en Chine, vous voyez, ça serait mieux. Est-ce que quelqu'un va inventer les batteries de l'avenir qui vont garder l'énergie solaire pour un siècle? Est-ce que quelqu'un va inventer, s'occuper du fait que le numérique
produit
déjà plus de CO2 que l'aviation? Alors que tous les militants, évidemment, écolos, ils sont toujours en train d'utiliser le numérique. Bon, il faut aller dans le domaine de la science. C'est pour ça que là, je concentrais de façon masochiste sur l'émission de CO2 en France, un pays qui fait 1% du CO2 mondial. 1%, grâce au nucléaire. Bon, c'est disproportionné.
Mais donc les COP ne servent à rien, les accords de Paris ne servent à rien, engagements que des États prennent sur des objectifs limités, même lointains, ne servent à rien.
J'ai parlé de la traduction masochiste concrète dans un pays particulier, alors qu'il faut créer un espèce de mouvement général. Les COP, c'est très bien, c'est pas suffisant, mais c'est très bien. La COP à Paris, Hollande et Fabius, c'était très bien le travail. Et il y a une COP très importante, il y en a qui servent à rien, bien sûr, comme beaucoup de réunions ne servent à rien. Mais enfin, il y en a une qui est très importante l'an prochain, en Chine, qui est la COP biodiversité.
Oui.
Donc si on veut s'intéresser aux conditions d'apparition des virus, les virologues sont plutôt d'accord entre eux. Hein. Les médecins sont en désaccord entre eux sur plein de choses, mais pas les virologues. Ils disent que c'est lié aussi au mode de développement agricole intensif, à la déforestation. Pas tous les virus, mais en partie d'entre eux. Donc s'il y a une partie de cette activité qui déconfine les virus, il faut quand même s'en occuper. Et d'autre part, si ça vient aussi des trafics d'animaux sauvages,
Comme c'est marchés. Le cas, par exemple, pour le pangolin qui est braconné, qui est le mammifère le plus braconné au monde, au Cameroun, par exemple, et qui se retrouve sur les étals d'un marché chinois. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à réguler, puisque c'est par définition illégal de A jusqu'à Z.
Oui, mais les COP, non, vous dites qu'elles ne servent à rien. Elles peuvent, dans certains cas, être un rendez-vous important. Et je pense que la COP en Chine pourrait être le moment où il y aurait une pression mondiale plus forte. Que des bitons disent, il faut vraiment corriger ça. Pas simplement interdire les trafics qui continuent. Donc il faut que la Chine en profite pour corriger ce qu'il y a d'obscur dans son comportement pour répondre à ça, en liaison avec les Africains, les Européens. Il peut se passer des choses. Il peut y avoir des COP décisives.
Françoise Fressoz.
Pour écologiser, il faut aussi que les techniques soient au point. Est-ce que vous pensez que les techniques en France, aujourd'hui, voitures électriques, batteries électriques, rénovation thermique, sont au point pour engager un grand et vaste projet d'écologisation?
Ah mais engagé, c'est déjà fait depuis des années. D'ailleurs, les moteurs actuels, même les moteurs les plus polluants actuels, polluent infiniment moins que ceux d'il y a 15 ans. On est déjà engagé là-dedans. Donc si vous parlez pas dans le monde médiatique ou politique ou intellectuel ou autre, mais dans le monde industriel, vous avez le sentiment d'un énorme mouvement qui a déjà commencé. Et la question, c'est de pas se laisser distancer bêtement par des débats d'arrière-garde. Alors après, qu'est-ce qui peut inciter? On tombe sur un vrai problème de recherche et d'innovation. Aujourd'hui, dans les dernières batteries, je reviens à l'histoire des batteries, les Chinois sont en avance sur les Européens.
Donc ça renvoie.
Mais il y a une initiative franco-allemande, c'est très bien. Mais il faut entrer dans ce mouvement, en fait.
Ça renvoie au sujet de la souveraineté, parce que la crise du Covid a aussi mis l'accent sur la besoin de récupérer une partie de la souveraineté industrielle. Et donc, est-ce que écologiser rapidement, est-ce que c'est pas une prime à la Chine, par exemple? Et comment est-ce qu'on évite, ça?
Dans l'urgence écologique, on fait avec ce qu'on a aujourd'hui, à l'instant T. Mais on peut se projeter dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et on peut dire, par exemple, il faut absolument que les Européens arrivent à maîtriser à nouveau telle ou telle technologie. Voyez. Donc il faut retrouver l'idée. On va pas refaire le commissariat au plan d'autrefois. Il faut quand même avoir une idée un peu stratégique. Moi, je suis frappé depuis le temps de voir que les grandes entreprises arrivent à planifier plus que les gouvernements, en fait. Parce que les gouvernements, ils sont harcelés 24 heures sur 24, il y a une élection pas loin, etc.
Et puis certaines entreprises sont plus puissantes que les États, on peut le dire aussi très simplement.
Par ailleurs, mais en termes de prévision. Donc il faut retrouver tout ça. Oui, on est engagé, c'est prometteur, après ça dépend des domaines. Il y a des domaines où ça va très vite. Aujourd'hui, on sait déjà construire des bâtiments à énergie positive. On n'a même pas besoin de les chauffer. D'ailleurs, un des rares points où la Convention a raison, c'est l'idée qu'il ne faut pas chauffer plus de 19 dans les bureaux, et pas climatisant en dessous de 25. Ça, c'est une bonne idée, ça. Bon, donc, ça bouge énormément. C'est très prometteur.
Ça veut dire que la politique a un temps de retard sur tout ce qui est en train de se passer, et finalement,
ne prend pas... Il y a pas la politique en général. Il y a des politiques en avance, d'autres en retard, d'autres... Il n'y a pas la politique. Non, c'est très interdépendant. Mais en tout cas, quand on regarde les choses du point de vue du monde économique, industriel, technologique, même financier, les choses vont assez vite, je trouve.
Sans
empoisonner les gens,
On a l'impression que les initiatives sont pas prises, que beaucoup de choses existent quand je vous entends, finalement c'est pas lancé,
c'est freiné. États-Unis, dont vous vouliez parler, Trump.
En vain.
On en a parlé un petit peu. Alors,
mais vous rapprochez dangereusement de la zone nationale et des questions politiques d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi que je voulais parler des États-Unis.
Bon, il y a Trump et son négationnisme débile sur le sujet, mais il y a énormément d'États, d'entreprises, de chercheurs, ça bouge partout. En fait.
Françoise Fressoz.
Vous dites un des rares points positifs de la Convention citoyenne. Vous êtes déçu par ses travaux et plus globalement, comment vous jugez cette...
Moi, je n'ai pas déçu par les travaux, j'attendais rien de spécial. Non.
Comment vous jugez cette initiative?
Ça, c'est l'avantage d'être hyper réaliste. On ne peut jamais être déçu. On n'éprouve pas non plus d'espoir démesuré.
Moi, c'est l'avantage du discours diplomatique, en fait.
Ça avait été quand même présenté.
Je suis très, très direct. J'ai pas d'outils diplomatiques.
Alors vous en pensez quoi de ces 140 propositions?
Ça a été quand même présenté comme une initiative importante du point de vue démocratique après le rejet de la taxe carbone. Et là, vous dites les propositions sont pas
terribles. Nathalie voulait parler du même sujet. Je peux faire une réponse groupée, non?
Non, attendez que vous ne répondiez pas directement à la question de Françoise pour pouvoir relancer.
Mais alors,
et vous demandez si
c'est
une bonne démarche.
Vous allez répondre?
Oui.
Bonne nouvelle.
D'abord, je ne fais que ça depuis le début. Je ne suis pas emballé par le tirage au sort.
Ah, pourquoi?
C'est une des raisons pour lesquelles on a condamné à mort Socrate.
Oui.
Parce qu'ils étaient moqués du tirage au sort. On rappelle pas de ça.
Si, bien sûr.
T'es pas né.
Il avait d'ailleurs dit, mais moi, si je veux un bon flûtiste pour égayer mon dîner, je vais pas le tirer au sort. Et quand vous montez dans l'avion, vous n'aimeriez pas apprendre que le pilote a été tiré au sort, je pense pas.
Bon. Non, mais la démocratie va pas très bien, et finalement, on s'est dit qu'on...
On va l'aggraver comme ça?
Bah, je sais pas, enfin, il m'a semblé qu'à l'issue de la crise des Gilets jaunes, redonner la démocratie...
Vous voulez vraiment, vraiment qu'on arrive à la zone rouge, comme votre t-shirt, Karine?
Alors, je vais passer...
En l'occurrence, c'est intéressant, le principe démocratique, le tirage au sort des citoyens, vous pouvez répondre.
Dans certains cas, peut-être, si c'est bien encadré, si les conclusions sont utiles, etc., etc. Mais je ne crois pas que ce soit la panacée pour revigorer la démocratie représentative, au contraire. Voilà. Après, il y a le contenu. Le contenu, je pense que se focaliser essentiellement sur le CO2 dans un pays qui fait 1% du CO2 mondial, sans avoir le courage de dire que c'est grâce au nucléaire, même s'il faut s'en débarrasser un jour, plus tard, du nucléaire, et se focaliser sur énormément de mesures qui vont empoisonner les gens, les rendre furieux, les retransformer en gilets jaunes au carré, je ne pense pas que ce soit la meilleure réponse.
Et moi, c'est la lettre de mission qu'ils avaient eue. On leur avait demandé de plancher sur ça. Ils n'ont pas choisi le sujet.
Ils ont débordé sur d'autres points, vous voyez. Et puis, ça dépend de qui acceptait d'être membre de la Convention, puisque vous n'êtes pas obligé quand vous êtes choisi.
Oui.
Donc, c'est des gens un peu militants qui ont été. Ça dépend de qui ils ont auditionné. J'aimerais bien savoir qui ils ont entendu par rapport à ça. Bon, il y a quelques mesures qui sont pas mal, hein, qui sont d'ailleurs dans les tuyaux assez souvent, mais ce n'est pas l'approche.
Franchement.
Et on n'a pas besoin d'être... D'être maso. Rappelez, Pompidou disait, il faut pas...
Emmerder les Français.
Qu'est-ce qu'il disait, faut pas...
Emmerder les Français. C'est vous avez voulu qu'on soit grossier, nous, pour pas l'être vous.
Non, mais sauf pour sauver la planète, Nathalie Saint-Cricq.
Il y a un sujet que vous abordez dans votre livre.
On n'a pas besoin de passer par la plupart de ces mesures,
juste,
en fait.
Une petite incise. Vous parlez de la nécessité, suite à l'expérience du coronavirus, d'un grand ministère de la Santé publique, dont vous dites qu'il serait beaucoup plus capable de prévenir les choses, de les traiter et d'être réactif. Et à cette occasion, vous dites qu'il devrait être émancipé des 35 heures. Est-ce que ça veut dire que vous considérez effectivement qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on doit revenir parce que c'est assez irresponsable dans les moments de crise, et vous dites qu'il y en aura d'autres, donc plus de liberté.
Il y a plusieurs choses. Je pense que les 35 heures étaient un immense progrès social dans certains domaines, notamment industriels, notamment la première loi, et que la seconde aurait dû être une option, en fait, ouverte à la négociation. Et je pense qu'appliquer à l'hôpital, c'était spécialement désastreux. Mais il n'y a pas que ça. Par ailleurs, je suis pas un expert, mais je connais beaucoup de gens dans ce monde et dans ce milieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne faut pas que ce soit simplement le ministère des médecins, vous voyez, même si on a des médecins exceptionnels. Donc il y a toute la dimension prévention, c'est ça la santé publique. Bon, mais cela dit, je ne veux pas me transformer en géotrouve-tout sur tous les sujets. Je suggère que le moment venu, on aille regarder en Allemagne. Vous voyez, à la fois des élus, puis des techniciens.
Vous diriez qu'Allemagne est votre modèle?
Non, c'est pas mon modèle. C'est un des pays qui s'en
est sorti. Ça ressemble à un modèle. Vous en parlez de manière admirative.
Non. Pas globalement. Pas globalement. Par exemple, j'ai parlé de Mme Merkel et du nucléaire, donc c'est pas mon modèle là-dessus, vous voyez, par rapport à ça. Mais je pense que ça serait intéressant d'aller voir des élus, des hauts fonctionnaires, des médecins, etc., en Corée du Sud, en Autriche, en Islande, en d'autres pays, et quelques lenders, pas tous. Pourquoi ils s'en sont sortis mieux? Est-ce que c'est à cause de la régionalisation? Est-ce que c'est à cause du statut privé mais hybride des hôpitaux? Est-ce que c'est à cause de la rémunération des médecins? Est-ce que c'est parce qu'ils ont gardé une industrie biomédicale, parce qu'ils ont gardé la culture industrielle? L'Allemagne a énormément profité de la mondialisation, mais ils ne se sont pas désindustrialisés. C'est en France qu'il y a eu des théories complètement absurdes de l'entreprise sans usine. Et bon, il y a un décalage aujourd'hui. Donc j'ai fait une suggestion, mais elle n'est pas travaillée comme une vraie proposition. Je suggère qu'on aille voir en quoi on peut améliorer les choses.
Améliorer les choses et ne surtout pas revenir à ce qui faisait une partie de la richesse de la France, par exemple, de l'Italie, de l'Espagne, le tourisme de masse, par exemple. C'est quelque chose...
Mais personne ne peut le décider.
À laquelle il faudrait le renoncer?
Non, mais personne ne va le décider. Il n'y a pas une sorte de despote mondial qui décide s'il y a du tourisme de masse ou pas. Les gens veulent voyager, naturellement. Mais vu ce qui s'est passé, et vu le fait qu'il y aura d'autres épidémies derrière celle-là, toujours le virus qui va traîner, je pense que le schéma, quand on regarde les anticipations des tours opérateurs des 10 ou 15 dernières années, ce à quoi ils s'attendaient dans les 15 ou 20 prochaines années, ça va pas, les arbres ne vont pas monter jusqu'au ciel. Donc je pense qu'ils doivent repenser leur système, d'autant que vous savez très bien que dans certains endroits comme Dubrovnik, Santorin, encore, etc., on est obligé, c'est tellement embouteillé, c'est tellement détruit par le tourisme de masse, qu'on est obligé de faire ce qu'on fait maintenant sur le Mont-Blanc. C'est-à-dire qu'il faut vous inscrire trois mois à l'avance, je viendrai à 15h30. Bon, tout ça. Donc c'est évident.
Et payer un droit d'entrée.
Ça va pas ressembler à ce qu'on a connu et ce que beaucoup de gens espéraient. Alors évidemment, ça remet en cause beaucoup d'activités économiques. Mais c'est pas une décision de qui que ce soit. Et dans le livre, quand je parle de ça, je constate, j'anticipe. Mais personne ne va décider ça. Mais beaucoup de pays sont déjà en train de penser en disant si la part de tourisme de masse dont bénéficions, il y a des pays pour lesquels c'est 10, 15, 20, 25% du PIB. Hein.
Oui, bien sûr.
Notre PIB rustique, là, tant bien qu'on n'a pas inventé l'autre. Là.
Françoise Fressoze.
Donc il faut réinventer, là.
Vous dites au niveau des relations internationales, la crise, au fond, a presque révélé les nouveaux équilibres préexistants. Est-ce que cette crise change quelque chose
déséquilibre.
Les déséquilibres. Est-ce que cette crise change quelque chose au niveau de la mondialisation ? En 2008, on a cru que la crise allait mettre un coup d'arrêt ou en tout cas mieux réguler. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez qu'on peut aller vers quelque chose de mieux régulé ou que finalement, on va revenir comme avant ?
Alors, mieux réguler, c'est encore autre chose, mais ça va changer des choses en ce qui concerne ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Donc, les produits où c'était finalement pas cher de les faire fabriquer dans 36 endroits avec 40 allers-retours, ça va se corriger. D'ailleurs, beaucoup de grandes entreprises mondiales, y compris les transporteurs, ont déjà intégré dans leur plan pour 2021, 22, 23, une certaine re-régionalisation. À la marge, mais quand même. Donc c'est déjà en cours, ça. C'est pas la même chose que la relocalisation, notamment pour la France. Mais d'ailleurs, il y aura pas de relocalisation. Il peut y avoir réindustrialisation dans des domaines de pointe, avec beaucoup plus de robots, donc pas tellement d'emplois, mais plus d'emplois qui sont viriens, bon, quand même. Et c'est pas que français, ça sera franco-italien, ou franco-marocain, ou hispano, je ne sais quoi.
Mais la relocalisation, c'est-à-dire rapatrier sur le territoire national des produits qu'on fait fabriquer ailleurs, ça non.
Massivement, non. On va pas transporter les usines à Shanghai pour les mettre à Châteauroux. Bon, ça va se passer autrement. Mais dans certains domaines révélés par la crise, entre guillemets, notamment la dépendance aux médicaments, à ce genre de trucs, par rapport à la Chine ou l'Inde, oui, il y aura un correctif. Dans 5 ans, ça sera très différent. Mais pas tout. Il y aura toujours la mondialisation. Mais corriger à la marge.
Mais c'est intéressant parce que dans votre essai à ce niveau-là, vous m'avez surpris. Vous dites voilà, prenons nos distances finalement avec la Chine et l'Asie et recentrons-nous
dans ce domaine en particulier. Hein.
Voilà, et recentrons-nous peut-être avec le Maghreb, l'Afrique.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que on
s'est trompé de stratégie en allant voir un peu trop la Chine ou ?
Oui, il y a une question de distance. Vous savez, c'est plus loin que le Maghreb.
Oui, ça, d'accord. ça, ok.
Donc je veux dire
c'est
par
juste
là.
C'est une sorte de CO2.
Non, mais ça joue. Disons, le coût du transport peut jouer. Les critères écologiques qui vont s'imposer dans un désordre affreux au début, mais finalement, ça va guider l'action économique. Et d'autre part, il y a les questions salariales. Donc c'est ce qu'a fait l'Allemagne en installant énormément d'usines en Europe de l'Est. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Allemagne a tellement poussé un élargissement rapide, en tout cas au pays d'Europe centrale, pendant des années. Parce qu'ils sont en Hongrie, ils sont en Tchéquie, etc. Donc on peut avoir le même genre de raisonnement en faisant des investissements avec les Italiens, les Espagnols, Portugais, mais aussi Algériens, Marocains, Sénégalais, vous voyez.
Il nous
donc
reste
c'est
quelques minutes.
Une application assez simple de l'idée de re-régionaliser. Mais c'est pas, on va pas abandonner la mondialisation. On est dans la mondialisation depuis que l'Homo erectus est sorti d'Afrique. Bon, on va pas tout changer. Il y aura plus de correctifs que ce que croient les gens qui se disent après tout ça va redémarrer comme avant. C'est pas vrai non plus.
Quelques minutes, malgré tout, avant la fin de l'émission, j'aimerais que vous nous expliquiez cette histoire que racontait Ronald Reagan et qu'on trouve dans votre livre. Ronald Reagan qui disait que si jamais un jour on était attaqué par les Martiens, il s'allierait à l'URSS. C'était en pleine guerre froide. Quelle est la morale de ce petit conte étrange ?
L'interrogation, est-ce que l'humanité est capable de s'unir ? C'est ça. Mais Reagan était formidable autour du fait qu'il était extrêmement sympathique. C'était un ancien acteur, à l'aise, un peu partout. Et il adorait faire des plaisanteries au micro. Il savait pas très bien quand les micros étaient ouverts ou pas. Je me rappelle d'un autre sommet, il disait, haha, les pop-off, je vais les pulvériser. Une chose comme ça, je vais leur envoyer les bombes, tout ça. On dit, mais, monsieur le président, le micro, ah oui, bon, enfin, je plaisantais, bon. Et alors, une autre fois, il a fait cette remarque en disant, est-ce que l'humanité est capable de s'unir contre quelque chose? Donc je l'ai cité dans un sens peut-être trop optimiste.
Peut-être.
Peut-être. Parce qu'il y a longtemps, dans un autre livre, il y a quelques années, Le Monde Odifié, je disais qu'en réalité, nous les Occidentaux, on n'a pas vraiment réussi à convaincre l'ensemble du monde que nos valeurs universelles sont universelles. Et la plupart des autres disent bah oui, mais on y croit nous aussi, mais à notre façon. Et de toute façon, vous pouvez plus nous imposer les choses. Et terminé. Vous n'allez pas refaire la guerre de l'opium, mais ça va comme ça. Donc il y a ce débat sans fin avec les Chinois, les Indiens, les tout le monde, même les Russes. Bon. Donc je disais qu'on n'y arrivera pas vraiment parce que le passé est là. D'ailleurs, on le voit ressurgir sans arrêt à travers les convulsions contemporaines que l'on connaît sur les aspects historiques. Mais je disais peut-être le seul domaine, un jour, où l'humanité trouvera une sorte d'unité, c'est dans l'idée que de la survie collective. Mais j'écris ça longtemps avant le Covid. Et c'est pas suffisant, puisque pour le moment, les différents pays réagissent dans l'urgence en ordre dispersé.
Oui.
C'est normal en urgence. Il y a l'incendie qui est là, bon. Mais j'exclus pas qu'il y ait des cheminements vrais qui fassent bouger même l'Amérique de Trump ou après Trump, même la Chine, qui est en phase nationaliste exacerbée. C'est pour ça que je parlais du rendez-vous biodiversité. Donc j'ai une sorte, moi, que les gens me trouvent en général...
Ah oui, pessimiste. Alors là, pas du d'optimisme qui nous surprend.
Oui, c'est très étonnant.
C'est revigorant même à lire.
Mais non, mais je
non,
suis jamais...
Frère, c'est enthousiasmant de terminer l'année et la saison comme ça.
Je suis jamais pessimiste ni optimiste. Je me demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire. En vrai. Mais les gens me trouvent en général atrocement lucide et trop réaliste voilà. Au moment
et
du diagnostic.
Oui.
Mais la question, et après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je pense qu'il y a un fil à tirer, là, en vrai.
Mais en même temps, quand on parle de survie de l'humanité, c'est évidemment la crise écologique qui vient à l'esprit. Et
oui.
On voit bien qu'il y a une difficulté de prise de conscience mondiale. On voit bien les États-Unis. Est-ce que là, vous êtes un peu plus optimiste là-dessus ou vous pensez qu'on va encore ramer des années?
L'écologisation dont je parle, c'est sur des décennies. Hein. Des décennies. Mmh. Mais à un moment donné, regardez, les Chinois... Au moment de la conférence de Rio, dernière année de Mitterrand, sur les questions d'environnement. Les Chinois disent, on n'a rien à foutre de tout ça. C'est complètement faux, c'est complètement inventé, vos histoires de climat. Et vous l'avez inventé pour nous empêcher de nous développer. Et si par ailleurs, c'était vrai, c'est pas de notre faute. Parce que c'est pas nous qui avons fait la révolution industrielle au 18e siècle, 19e. Donc c'est entièrement de votre faute. C'est vous qui devez payer. Les conférences d'après, ils commencent à dire, ouais, c'est peut-être vrai, mais c'est de votre faute. Et puis après, ils évoluent. Pourquoi ils ont évolué? Pas parce qu'ils se préoccupent du climat après-demain, mais parce que l'air dans les villes de Chine est devenu irrespirable. Ce qui n'a aucun rapport avec le CO2, ça, c'est la pollution, au sens classique. Donc même en Chine, où il y a quand même 80 millions de membres dans le Parti communiste, il n'y a pas de démocratie au sens occidental. Même là, il y a des pressions, il y a une opinion, il y a un système d'Internet chinois où il y a au moins 500 millions de types très, 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 très actifs là-dessus. Même là, ils se sont dit « il faut bouger ». Même là.
Mais vous dites,
je réponds à Madame. On peut bouger, même la Chine. Donc dans d'autres domaines, je suis convaincu dans la.
Sauf sur le respect des droits de l'homme, là pour le coup, on en est encore loin.
Non, mais on parle d'écologie là.
Bien sûr.
Et puis de toute façon, on n'a pas même vous n'avez pas le moyen de leur imposer. On est la patrie de la déclaration des droits de l'homme. Ça ne nous donne pas une baguette magique pour transformer la Chine en un gros Danemark. Donc c'est un autre sujet.
Il y a de la marge.
Et bien sûr, mais on n'a pas la baguette magique. Mais je ne désespère pas du fait que même les pays les plus hostiles, les plus obtus, même au fond de l'Afrique, ils disent « mais moi je veux me développer ». Mais ils commencent à se rendre compte qu'en détruisant le patrimoine naturel en Afrique, ils vont tuer, pas le tourisme de masse, mais le tourisme de qualité, qui est un élément fondamental du revenu en Afrique. Donc il y a des fils à tirer dans tous les domaines, je pense.
L'émission
bon, ça
n'efface
aucune des autres disputes politiques et compagnie, mais
oui, bien sûr,
malheureusement, puis, on ne peut pas en parler. Là,
il y a tant de sujets à aborder, et il y avait tous ceux dont on ne pouvait pas parler.
Juste une incise,
d'un mot.
Vous parlez d'un nouveau modèle d'EHPAD à inventer, parce que vous avez trouvé la façon dont ça a été géré pas terrible. Est-ce que vous pensez, comme un certain nombre d'intellectuels, que les Français ont accepté très facilement le confinement et les entraves à un certain nombre de leurs libertés? Est-ce que ça vous a surpris, ça?
Non, moi, je ne suis pas sur ce terrain... Hein.
Non, je ne vous dis pas, mais pour vous pouvez...
Non, je trouve que les glapissements sur les libertés, non. C'est l'urgence, l'urgence sanitaire, c'est absurde ces commentaires. C'est des cris d'enfants gâtés. Hein.
Mais ce ne sont pas des absurdes.
Non, mais, par exemple,
par les EHPAD, en vous disant laissé des gens mourir dans leur coin sans pouvoir s'occuper d'eux. Donc j'avais un cheminement.
J'ai dit, il faut évaluer tout ça.
D'accord, il ne faut pas juger, il faut évaluer.
Mais je rappelle qu'au moment où on a imposé la ceinture de sécurité dans les voitures, il y a eu plein d'articles pour dire « mais c'est honteux, c'est ma liberté, c'est des atteintes atroces, fondamentales, le pays des droits de l'homme, tout ça, l'imitation de... » C'est complètement... Je dis pas qu'il n'y a pas des problèmes ponctuels à corriger sérieusement, mais tout ça est absolument disproportionné.
et le monde continue de tourner. Merci Hubert Védrine d'avoir été notre invité. Et après, point d'interrogation est publié chez Fayard. Merci à toutes les trois. C'est un bonheur de partager cette émission avec vous tous les dimanches au cours de cette saison. Merci à Alexandre Gilardi et à toutes les équipes techniques de Questions Politiques. On se retrouve à la rentrée.